France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Salut, c'est Jean-François Piège. Donc le Crillon, c'est ma première place à Paris en 90, c'est ma première place de chef, et c'est là où j'ai rencontré mon épouse. Donc c'est un lieu qui est incroyablement important pour moi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le luxe, c'est des produits très choisis, c'est des produits qui ont été cultivés avec le plus grand soin, le plus grand respect.
Alors n'oubliez pas que notre restaurant est l'ambassadeur de la gastronomie française.
Le grand restaurant.
3, 4.
On accueille les clients par la cuisine, par notre sourire. Je pense que la troisième étoile, c'est de la conviction, c'est de la cuisine, c'est du goût, c'est des assaisonnements, c'est des cuissons. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours.
Bienvenue sur le plateau dont on va déguster pour une nouvelle masterclass. Les masterclass dont on va déguster, c'est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons régulièrement dans notre émission. Un face-à-face avec une grande signature de la gastronomie devant le public dont on va déguster. Bonjour à toutes et tous. Après Anne-Sophie Pic qui a essuyé les plâtres, après Philippe Etchebest qui est venu en numéro 2, c'est au tour de Jean-François Piège de se prêter à l'exercice. Bonjour Jean-François.
Bonjour à tous, bonjour François-Régis.
Merci d'avoir accepté notre invitation, soyez le bienvenu dans notre studio 621. Je vous présente la règle du jeu Jean-François.
Allez.
On va vous cuisiner à petit feu pendant une heure à travers des questions, des dégustations à l'aveugle. Vous allez aussi enfiler votre tablier et passer derrière la plaque de cuisson. Pour une démo culinaire de quelques minutes, vous allez aussi avoir droit à un temps d'échange avec deux de nos chroniqueurs dans la bande dont on va déguster qui ont des questions à vous poser sur des thèmes précis, peut-être aussi des surprises à vous servir. C'est Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous.
Notre public n'est pas là pour faire de la figuration. Nous avons besoin de volontaires pour participer à nos dégustations, mais aussi pour poser quelques questions à nos invités. Ça vous va ? Pour retrouver nos masterclass et tout leur contenu, recettes, bonnes adresses et vidéos, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, les masterclass dont va déguster François-Régis Gaudry.
Jean-François Piège, quelques chiffres pour vous resituer auprès de notre public, auprès également de nos auditeurs et de nos auditrices. Vous êtes né le 25 septembre 1970 à Valence dans la Drôme, si mes calculs sont bons. Vous aurez 54 ans dans 3 jours.
Gagné.
Vous êtes dans la haute cuisine depuis 37 ans. Vous avez 2 étoiles au guide Michelin, au fourneau du Grand Restaurant, votre table gastronomique 8e arrondissement de Paris. Et vous avez 6 restaurants à Paris, dont 2 bistrots historiques du quartier des Halles, qu'on aime beaucoup. Hein.
Ah bah oui, la poule au pot et l'épidore.
Absolument, la poule au pot et l'épidore. Un restaurant à Gordes dans le Luberon, un autre à Saint-Tropez, un à Taïwan, d'autres projets d'ouverture pour bientôt.
Le 25 septembre, la première ouverture au Maroc.
Le jour de votre anniversaire ?
Oui, j'ai ouvert le Plaza le jour de mes 30 ans.
Ah oui, donc vous aimez,
c'est
la symbolique des chiffres.
C'est le hasard. À l'époque, je vous fais une anecdote.
Ouais.
On était dans le bureau du patron, et puis j'étais avec Denis Courtiade, et puis on ouvre quand ? Bah, j'ai dit lundi prochain. Personne ne savait, Denis était, c'est le directeur de salle, il était très au courant de savoir que c'était le jour de mon anniversaire. Et voilà.
Votre anniversaire a une importance tout à fait particulière dans votre carrière,
travaille.
C'est bien.
Oui, je travaille.
Vous avez participé à 10 saisons de la fameuse émission Top Chef sur M6 quand même, les 10 premières saisons de cette émission à succès. Et j'ai compté le nombre de livres que vous avez écrits, je crois que j'arrive à 16.
Gagné.
C'est ça ? Dont le dernier, que j'aime particulièrement, qu'on aime particulièrement, c'est un coup de cœur collectif pour ce petit bouquin, mon répertoire de cuisine, un répertoire de près de 500 pages avec 1500 recettes classiques et modernes, régionales et internationales, probablement amené à devenir d'ailleurs l'aide culinaire de nombreux apprentis. C'est l'objectif de ce livre, Jean-François Piège, chez Hachette Cuisine.
Non, parce que quand on fait un livre, c'est parce qu'on a envie de partager, pas parce qu'on a envie de réussir. C'était dire que j'ai un tas de recettes et que je l'ai retrouvé entre-temps parce que j'ai débarrassé la maison de ma maman qui nous a quittés. Et en fait, les recettes, ça ne sert à rien si on ne les partage pas. Donc, il n'y en a aucune à moi là-dedans. Hein. Elles ont toutes été échangées, elles ont toutes été... Il n'y en a aucune à moi. Il n'y en a pas beaucoup, je veux dire. C'est des recettes qu'on m'a confiées, qu'on s'échangeait quand on était plus jeune. Aujourd'hui, il y a Instagram. Mais avant, entre cuisiniers, on s'échangeait des petits bouts de papier.
Formidable inventaire, voilà. Avec le vrai système du répertoire, voilà. Les petits signés pour retrouver les
parce
thématiques
que
des recettes.
J'ai le vrai, hein. Mes recettes... Je les mets toutes sur un ordinateur, mais j'ai mon répertoire qui a 37 ans. Et j'y tiens comme la prunelle de mes yeux, et j'ai voulu le transformer en livre.
On commence, Jean-François Piège, par un questionnaire qu'on pourrait baptiser le nez dans vos casseroles. Mm-hmm. Le principe est très simple, je vous cite une recette, un ingrédient, et vous me dites ce que ça vous évoque. Question très courte, réponse très courte, s'il vous plaît.
Dommage.
Tomate farcie.
J'adore.
Ah oui.
C'est très court, hein.
Réponse courte. Moi, je vous le jure. J'adorais celle de ma maman. Pour une raison simple, c'est qu'elle les faisait avec des restes de viande. Et quand on ne met pas de la viande crue, elle s'amalgame. La viande cuite, ça reste moelleux, ça prend du jus, et on peut l'assaisonner, on peut mettre des choses dedans.
Pizza soufflée.
Cette idée est venue parce que j'ai travaillé longtemps avec un homme qui s'appelle Bruno Cirino, qui avait un restaurant à la Turbie. À l'époque, je travaillais avec lui au Château Eza. En 89, à l'époque, je travaillais avec lui. C'est lui qui m'a beaucoup aidé. Je suis désolé, ça va être très long. Et... il préparait le meilleur ouvrier de France qu'il n'a jamais eu, et le soir je restais avec lui, l'après-midi je restais avec lui, et un jour on était en train de se préparer et il y a Alain Ducasse qui vient manger. Et il fait un dessert, il a une sensibilité hors norme, il fait un dessert, il ne sait pas où il va, il prend du feuilletage, c'était des rognures, il les plie en deux, et ça se met à souffler. Comme ça.
Avec le bruitage s'il vous plaît.
Et je trouve ça dingue. Et on en a fait une tarte aux prunes avec des citrons et des amandes, c'était formidable. Et de cette logique-là, j'ai essayé un jour avec une autre pâte, et puis on a trouvé, voilà, et en prenant une pâte à huile, qui est une pâte qui sert à faire des rissoles, j'ai mis dans la friture, et c'était un peu grave, et on l'a mis au four et ça soufflait. Voilà. C'était un des plats quand j'avais une brasserie.
On parlait d'une pâte à pain.
D'une pâte à pain, oui.
Sans levure. À l'occasion de l'ouverture de la brasserie Tout Mieux.
Voilà. Ouais.
En 2009, dans le 7e arrondissement de Paris, cette pizza soufflée, on a soufflé plus d'un, si j'ose dire, et a surtout fait beaucoup, beaucoup couler d'encre et parler. C'est un plat qui a bien marqué.
Ouais, je l'ai arrêté.
Elvira ?
Il y avait un autre plat que vous faisiez à l'époque et que j'adorais, moi, que je vous ai piqué d'ailleurs dans un livre de recettes que j'ai fait,
en
vous créditant, hein, bien sûr.
Non, mais même pas besoin, c'est la cuisine.
C'est le calamar carbonara,
qui
est une recette géniale.
Oui, ça, je le continue.
Où le calamar joue le rôle de la pâte.
On est en vacances avec Elodie, mon épouse, et je vois une publication. Je dis, mais c'est des calamars. Je fais demi-tour parce que c'était affiché. Et c'était pas des calamars, c'était des spaghettis.
Oui.
Et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être une bonne idée. Et voilà comment c'est né.
Avec un calamar vraiment détaillé, voilà, comme une tagliatelle ou un spaghetti.
C'est ça qu'on aime chez vous, c'est que vous êtes un vrai grand codificateur de la cuisine française et en même temps, vous aimez jouer.
Oui, oui, et puis il faut pas avoir peur de se tromper, je me trompe souvent.
Allez, une petite touche sucrée, gâteau au chocolat.
Oui, bah ça c'est pour faire plaisir aux autres.
Et vous avez une version de gâteau au chocolat, elle a atterri par miracle dans notre studio, à vos cuillères. Chers amis, gâteau au chocolat signé Jean-François Piège. Alors, c'est pas Jean-François qui l'a fait, on l'a préparé pour vous. Vous pouvez peut-être avoir un commentaire en termes de cuisson, etc.
Alors, je dis, c'est juste, mais ça peut s'appliquer à toutes les recettes. La cuisine, c'est un couple du temps et de la température. Quand on monte la température, on baisse le temps. Quand on baisse la température, on monte le temps. Mmh. C'est un curseur qui est comme ça. Et en fait, c'est une recette de 4 quarts. Il y a presque de mémoire, je sais pas, je crois qu'il y a autant de beurre.
Exactement. Voilà. C'est très simple pour le coup, c'est même mémotechnique, puisqu'il y a 250 g de chocolat, 250 g de beurre, 250 g d'œufs, ce qui correspond à... Il faut calculer le nombre d'œufs.
8.
5.
5. Ah oui,
à peu près.
8.
150 g de sucre en poudre, 160 g de farine. Et ça fait ce gâteau qui est très bon, avec un cœur fondant.
C'est une recette, je pense que c'est une recette de famille, et je dirais, aujourd'hui on pourrait peut-être remplacer la farine par de la maïzena, parce que ça serait peut-être un petit peu moins granuleux, mais c'est une recette que j'ai laissée telle qu'elle.
Il est délicieux.
Oui, la faible teneur en sucre ne fait que renforcer l'aspect très, très intense du cacao.
Ah bah voilà qu'il aime un dessert
non,
avec
peu
de
sucre.
Moi j'aurais préféré qu'il y ait plus de sucre.
Non mais j'aurais même pas dû poser la question.
Mais maintenant, moi quand je fais une mousse au chocolat, j'enlève du chocolat et je mets un peu de cacao à la place. Je trouve que ça fait des meilleurs résultats. Et je pense que si j'avais eu à travailler sur le gâteau là, j'aurais enlevé des 250 grammes, 75 grammes de chocolat et que j'aurais remplacé par 50 grammes de cacao.
Et ça ferait quoi ?
Ça va plus droit. C'est un tout petit peu plus amer, un tout petit peu plus chocolat.
La recette du gâteau au chocolat de Jean-François Piège à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Ça me fait une transition. Pour vous annoncer, chers publics, auditeurs et auditrices, que nous lançons avec On va déguster France Inter, le concours du meilleur gâteau au chocolat de France. Il y en a forcément un dans votre famille, parmi vos proches ou vos amis. Un gâteau au chocolat, ou peut-être que c'est vous qui pratiquez une super version de gâteau au chocolat. Envoyez-nous votre recette et on va la tester. On élira avec un prestigieux jury la meilleure recette de gâteau au chocolat de France qu'on vous dévoilera dans une émission consacrée au gâteau au chocolat. Le vainqueur ou la victorieuse gagnera le gros lot et ce gros lot sera composé de livres, de produits d'exception, d'un cours particulier avec un grand pâtissier. On vous en dira plus dans les prochaines semaines. Vous avez jusqu'au 21 octobre pour nous envoyer la recette détaillée très précise de votre gâteau au chocolat à l'adresse suivante. On va déguster à radiofrance.com. Il y a quelques règles qu'on vous détaille sur le site. Vous devez être amateur et non un professionnel de la cuisine. Donc Jean-François Piège, pas le droit de vous présenter avec votre gâteau. Ce gâteau peut être un
même
fondant.
Même si je me déguise.
Non, même pas. Ce gâteau peut être un fondant, un moelleux, un mi-cuit, un cake, mais pas de tarte et pas de mousse. Ça peut être un gâteau individuel ou un gâteau jusqu'à 6 ou 8 personnes. Et enfin, évidemment, le chocolat doit être l'ingrédient majoritaire en dehors des ingrédients neutres comme la farine, le beurre, les œufs. Et ce chocolat doit comporter un minimum de 40% de cacao, donc pas de gâteau au chocolat blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous retrouvez toutes les règles sur franceinter.fr à la page On va déguster. Pour mitonner cette masterclass dont on va déguster, il y a notre réalisatrice Laurane Thomas avec Rémi Sistiaga et Maxime Goudard, Fabrice Rivaud pour l'organisation et la préparation de cette émission, Thomas Darko pour la régie culinaire, Julien Chabassu et Didier Mariani pour la captation vidéo. On est bien avec Jean-François Piège sur France Inter. I was at a sit-down interview. I remember telling fibs about what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. Cause I feel good when I am in New York. Cause I Let's Do Nothing du duo américain King & Art. Notre invité exceptionnel aujourd'hui, le chef cuisinier Jean-François Piège.
Les masterclass dont on va déguster.
The menu, please.
sur France Inter.
Et dites-moi, c'est quoi la couleur?
La couleur, c'est un petit peu de colorant.
Du colorant dans les fraises? Mais ça va pas, non? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi?
C'est pour garder la couleur. À la cuisson, on la perd un petit peu.
Vous partez déjà avec un sacré handicap. Hein. Ah non, mais je rigole pas. Hein. On vous a dit un fraisier 3.0, vous utilisez des leviers des pâtissiers d'il y a 30 ans.
Ouais,
je... Eh oui, mais quoi, les gars, eh.
Il a pas l'air content à côté de chef.
Ouais, j'ai entendu, ouais. Petit coup de pression à côté.
Ah, les pauvres.
C'était un extrait du Meilleur pâtissier, les professionnels, la fameuse émission d'M6, dont vous avez été juré dans la saison 4 en 2021, Jean-François Piège. Un juré, on l'entend exigeant, voire intransigeant,
bon, y avait...
même si sur le fond... C'est la télé qui vous a poussé ou c'est votre tempérament à être un peu comme ça, un peu dur?
Oh, je le disais avec le sourire.
Ah bon?
Ça s'entendait
on
pas?
On l'a pas entendu, non.
Ah ouais, c'est vrai? Il y a que moi qui l'ai entendu, non.
Non, ça va?
Ah, je peux vous le faire sans le sourire, là, si vous
voulez. Ah bon?
Oula. Oui, oui, allez-y, on voudrait voir. On vous écoute, Jean-François.
Non, c'est avec le sourire, non. Non, bah le colorant, c'est interdit.
Ouais.
Franchement.
C'est des méthodes d'un ancien temps.
Ouais, d'un ancien temps.
Vous avez été juré donc pour Top Chef les 10 premières saisons. Vous avez participé également à 3 saisons de Un Dîner Presque Parfait, toujours sur M6. La télé, ça vous manque?
Non. Non.
Vous n'aimeriez pas vous engager dans une nouvelle aventure cathodique?
Non, parce que c'est, j'ai eu une chance folle. Et merci à l'équipe de Top Chef. Mais j'ai commencé sur la première en faisant 93 Saint-Honoré. Avec Thierry Ardisson, qui était sur c'est la même famille. Et j'ai fait la dernière saison.
Paris Première.
À l'époque, j'étais au Crillon et on s'est amusé, en fait. Parce que la télé n'avait pas la même emprise sur ceux qui la regardent. Ou du moins, ceux qui y venaient n'avaient pas le même but non plus. Et j'ai vécu cette candeur quand une aventure commence.
Vous êtes entendu que vous trouvez la télé trop formatée?
En fait, moi, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans les restaurants ou à la télé, je trouve que ce qui m'intéresse, c'est l'aventure. Et cette aventure, elle était extrêmement belle, et que peut-être qu'elle aurait été moins... J'en sais rien, j'ai arrêté, donc je peux pas savoir. Mais elle aurait été peut-être moins belle. Et c'était tellement beau que je préfère que ça s'arrête quand c'est beau.
D'accord. Bon, on passe à la séquence suivante, Jean-François Piège. Une grande séquence de cette masterclass qu'on a baptisée le troc gourmand. Le principe est simple, vous nous faites déguster une surprise comestible. Et en échange, on vous renvoie à l'ascenseur. Avec une surprise que je vous ai spécialement concoctée. Ça vous va?
Ça me va.
On commence avec vous?
Ouais, sauf que moi j'ai un problème.
Ah.
J'ai deux, et ça peut se manger, mais ça s'hume. Voilà. Il y en a une que vous allez trouver tout de suite, mais ce qui m'intéresse dans celle que j'ai ramenée, que vous allez trouver tout de suite, mais ça vient d'où?
Ah. Alors, nous avons fait appel à Virginie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans notre public, veuillez vous rapprocher du micro si vous voulez bien. C'est vous qui allez faire la première cobaye?
Très bien.
Alors, il y a un bocal, Jean-François Piège, on sort quelque chose de mystérieux dans un papier un peu graisseux.
Un papier qui a une petite centaine d'années.
Presque.
Un papier ciré, un peu.
En plus, vous avez compris que j'aimais bien les histoires.
Mm-hmm.
Cette histoire, elle vous concerne.
Ah.
C'est quoi?
Oh la vache.
Oh là là. Il y en a combien, là?
Là, il y a un monceau de gousses de vanille. Mm.
Alors, vous allez le prendre comme ça.
Non, vous allez nous faire deviner une provenance?
Voilà.
Ah là, il est méchant. Ah oui, il y en a des plus ou moins boisés, fleuris. Virginie, une provenance?
Madagascar, Tahiti, je sais pas. Je pourrais pas vous dire.
Je réponds pas, parce que sinon les autres, ils vont tout de suite. Ils vont...
Alors,
c'est pas facile.
Pour Virginie, que vous évoque ce parfum?
Ça m'évoque un voyage à Tahiti.
D'accord. Que vous avez effectué?
Que j'ai effectué. Et car j'ai des amis qui vivent là-bas.
Mm-hmm.
Et chaque année, ils me ramènent un sachet, deux sachets, trois sachets de gousses de vanille.
J'adore l'idée.
C'est on aimerait bien avoir vos amis. Hein.
Ouais. Et à chaque fois, c'est un réel plaisir et c'est un réel voyage.
Jérôme Gagnez.
Il y a presque des nuances un peu de fruits exotiques. J'ai été très surpris en sentant cette vanille. Mais après, l'aromatique, c'est comme dans les vins... Voilà, on a chacun une interprétation. C'est évidemment d'une très grande intensité. Et pour être parfaitement franc avec vous, je n'ai absolument pas la moindre compétence pour différencier les vanilles selon leur provenance. Son intensité me ferait peut-être pencher pour la Réunion, la vanille Bourbon, l'île Bourbon, parce que c'est très intense. Et que finalement, c'est peut-être la vanille la plus intense, celle de la Réunion.
Et alors, avec en plus, quand même un calibre, ce qu'on ne voit pas à la radio, hein.
Oui,
et un calibre de vanille, de gousse,
qui est énorme.
Tout à fait énorme.
Ouais. Alors oui, et puis moi, on se pose pas mal de questions quand on travaille, nous, c'est que j'ai toujours entendu dire que la vanille grasse était la vanille qu'il fallait choisir. Je ne suis pas sûr. Je vous divulgue d'où ça vient.
Océan Indien.
Ça vient de Bretagne.
Ah. Bon. Bravo,
voilà. C'est un piège.
Oui, c'est un piège. Ouais.
Et le public ajoute à l'humiliation des applaudissements. Merci.
Et vous en êtes responsable. D'ailleurs, j'ai cru voir sur les réseaux que c'était dans quelques jours. On peut en faire la pub du festival à Uzès.
Bien sûr. Saveur et savoir qui va avoir lieu du 10
au... un très joli moment.
Au 14 octobre prochain.
Et moi, j'ai un défaut, c'est que je suis un... Parfois, quand je suis dans le mode on échange, ça va. Si je suis pas dans ce mode-là, je suis un peu un ours. Je peux avoir beaucoup de distance. Alors, parfois, regarde ce sale... Non, c'est que je suis pas dans ce mode-là. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me voir, qui s'appelle François Auté, qui me dit « Je fais du thé ». Ouais, ok, super, Auté. Puis j'ai pris la carte, et puis comme je suis archiviste, je me suis mis dans ma petite poche quand j'ai quitté mon pantalon, je l'ai mis dans mon petit cahier, quand j'ai regardé, j'ai appelé. Et il produit du thé en Bretagne. C'est absolument incroyable. Mm-hmm. Je fais un homard où on serre l'intérieur du homard avec des pickles, des premières feuilles de thé. Et on a trouvé que c'était quelqu'un de très intéressant, on a trouvé que quelqu'un qui était fabuleux. Et il nous a dit, cette année, il y a 800 kilos de production de vanille en Bretagne. Et moi, je suis un amoureux de ça, en fait. Le grand restaurant, et dans tous mes restaurants, mis à part le grill, je veux qu'on mette en avant ces gens qui ont un savoir-faire incroyable. Et bien voilà. Donc ça, c'est une vanille qui est produite en France. Incroyable. Et c'est peut-être pas forcément la plus jolie, quand je disais la plus grasse. Mais en fait, j'aime bien remettre en question ce qu'on me dit. La plus grasse, ça veut dire c'est la plus humide. La plus humide, c'est pas forcément celle qui a le plus de goût. Donc je suis pas sûr que quand on achète une vanille, il faille acheter la plus grasse. Ça c'est alors, ma réflexion.
Sacrée surprise. Pour une surprise, c'était une surprise. Hein.
Voilà.
Là, vous nous avez séché.
Et j'en ai une autre. Ça se sent, vous pouvez le croquer. Allez, vous ouvrez, vous fermez.
Virginie ?
Il y a un arrière-goût de myrtille, non ? De baie...
C'est les capres ?
Non.
Non.
Ça ressemble.
Ah.
C'est quoi ?
Bourgeon de cassis.
Un cassis.
Bourgeon de cassis.
Je trouve ça
c'est bon.
Incroyable et on peut le mettre dans le faire sécher, le mettre dans un moulin à poivre, on peut faire des infusions, on peut s'en faire des infusions.
Ça sent comme un bon Sauvignon de Loire. Mais non, mais c'est bon en plus.
Ouais. Non, un Sauvignon de Nouvelle-Zélande, pas de Loire. Ça n'a rien à voir. Si on pouvait éviter quand même ça.
En fait, c'est le petit truc que nous, on utilise beaucoup aujourd'hui en cuisine. C'est assez souvent quand on va aller chercher des goûts sur des fruits, sur des choses où il y a du sucre, eh bien, il y a peut-être autour des choses qui sont plus odorantes et qui ont l'imaginaire du goût plus précis que le goût. Ma maman faisait un vin de pêché, un vin de griotte, et il n'y avait pas une goutte de griotte, il n'y avait pas une goutte de pêche, et pourtant ça avait un goût dingue de ces choses-là, et ça éveillait en moi l'idée que quand on fait certaines sauces, certains jus, et ben c'est plus intéressant d'utiliser ce qu'il y a autour du fruit que le fruit.
Voilà, là, il y a l'intensité aromatique concentrée dans un petit bourgeon qui fait à peine 3 mm de longueur, et ça sent comme quand on frotte la feuille d'un cassisier aussi.
Ouais. Mais c'est d'ailleurs, vaut mieux faire une infusion de feuilles de cassis que de cassis. Hein.
Absolument. Merci Jean-François, deux très belles découvertes. On vous remercie beaucoup de nous avoir piégés avec autant de talent. Enfin, moi je ne me suis pas laissé avoir sur le cassis, vous l'aurez observé. À nous de vous faire goûter quelque chose à l'aveugle, est-ce que vous êtes prêts ?
Allez.
Vous avez le palais bien affûté ? On le sait. Un petit gobelet avec une chose liquide dans vos verres. On peut déjà dire que c'est un liquide qui a été réchauffé. À vous de goûter et de me dire ce que vous en pensez.
Alors, à la vision, c'est un bouillon, je ne trahirai rien, j'ai gagné.
Bonne réponse.
Au nez, ça sent le bouillon de viande. Quand on est dans la cuisine, vous savez, quand vous voyez cette image d'escoffier, alors il ne l'a jamais fait, mais qui est en train d'écumer, ça sent ça, en fait.
Bonne
Sauf
réponse.
Que ça serait trop simple.
Il y a de la viande. Après, quand vous commencez à goûter, il y a peut-être une palette aromatique que vous pouvez repérer. On va donner la parole à Jacques de notre public, qui nous a également rejoint au micro. Qu'est-ce que vous pensez de ce bouillon, puisqu'on sait désormais que c'est un bouillon ?
Bouillon, bouillon de viande, bien assaisonné, il y a une sorte d'épice au fond.
Oui, bien joué. Il y a une épice, il y a même plusieurs épices.
Ça sentait le poivre dès la prise en bouche, et après ça ressemblerait comme ces épices qu'on appelait avant, qui étaient dans certaines recettes, les épices à rabeler.
Moi c'est marrant parce que quand je le goûte, j'ai l'impression de goûter une espèce de concentré de tomates farcies.
Ah, c'est intéressant.
Il y a un côté, il y a une dimension végétale en fait, dans ce bouillon un peu. Il y a la viande évidemment qui est très prépondérante, mais une note végétale.
D'accord.
Moi, j'ai encore le cassis dans la
bouche. Moi aussi.
Ah oui, c'est le problème. Désolé.
C'est pour ça que j'ai voulu le refermer pour pas que ça.
Et oui. Et donc, il y a comme une espèce de petite collision buccale entre deux saveurs, ce qui ne rend pas la chose évidente.
Un peu dans l'esprit Viandioc, c'est plus sarablé, moi.
Ok. Bon, bah vous prenez le bouillon. Hein.
Ah bon ? C'est quoi ?
C'est une nouveauté que je voulais vous présenter, conditionnée dans un bocal de 37 centilitres et qui porte la marque de Umami. Sur l'étiquette de ce bouillon, je lis 60% d'os. Nyokmam, dosé à 75% d'anchois. Oignon, gingembre, sel de Guérande, une touche de cannelle, cardamome noir, badiane, coriandre, clou de girofle, extrait de stevia pour la rondeur sucrée. C'est donc un bouillon feu.
Mais quand Jean-François dit mélange Rabelais, c'est bien ça, c'est badiane, girofle, cannelle, c'est ça le mélange Rabelais.
Et Umami, c'est une jeune marque qui a été fondée par Aline Lebren-Baron, qui fabrique artisanalement dans la région du Mans des bouillons très aromatiques, riches en collagène et en acides aminés conditionnés dans des bocaux en verre, je l'ai dit, à partir d'ingrédients exclusivement biologiques et français, mijotés jusqu'à 24 heures, zéro additif, évidemment. Et il y a un bouillon feu, il y a également un tonkotsu, il y a également un bouillon poule curcuma,
c'est
un bouillon
tradition. C'est le bouillon.
C'est le bouillon, mais il faut le rallonger d'un peu d'eau.
Voilà.
Il est assez intense et elle espère atteindre l'umami. J'espère que ça a été votre cas.
C'est vraiment délicieux en tout cas.
C'est très bon.
C'est très bon. Ouais.
Il y a un côté ail à la fin de bouche là. On a un côté un peu ail qui revient.
En tout cas, c'est une belle aide culinaire pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de faire des bouillons à la maison, tous les points de vente, etc. Les infos sur les bouillons umami entièrement artisanaux à retrouver sur notre site. Je laisse la parole à Elvira Masson. Pour un temps d'échange avec vous, Jean-François Piège.
France Inter. On va déguster.
Quand j'ai commencé ce métier, on nous a donné un livre, quand on rentre à l'école hôtelière, qui s'appelle Le Gringoire et Saunier. C'est un répertoire. Et moi, je suis un amoureux des objets aussi. Donc j'avais envie un jour de le faire. Et puis les recettes, c'est pas fait pour être gardé, c'est fait pour être transmis.
Jean-François Piège, vous entretenez une passion dévorante pour les livres de gastronomie. C'est à se demander si votre régime alimentaire n'est pas le papivorisme. En tout cas, c'est le thème qu'Elvira Masson a choisi d'aborder avec vous.
Oui. Le papivorisme, 54 ans, je ne sais pas comment il faut que je le prenne. Merci. Merci. Moi, je vais y aller. Hein.
Nous adorons les livres de recettes. Alors vous, c'est une passion vraiment dévorante. Et d'ailleurs, moi, dans ma passion à moi, il y a un livre qui est sur ma table de chevet. Enfin, un petit peu à côté, parce qu'il est quand même un peu gros pour être sur une table de chevet. C'est le grand livre de la cuisine française, recettes bourgeoises et populaires. C'était en 2020 qu'il a été publié.
Incroyable
c'est,
bouquin.
C'est un livre de référence pour beaucoup d'entre nous, Jérôme.
C'est un des plus beaux bouquins que j'ai dans ma bibliothèque.
Sur la cuisine française classique.
Ce bouquin est totalement hallucinant. Ouais. C'est extraordinaire.
Et une entreprise colossale.
Ah oui, vraiment, c'est...
Alors, en 2013, vous disiez posséder entre 8 et 10 000 livres de cuisine. 10 ans plus tard, vous en êtes où de cette pathologie de collectionnite? Elle s'est aggravée, elle s'est stabilisée?
Elle s'est réduite sur l'intensité, parce que y a le problème de collectionner, c'est une question de place.
Et vous les mettez où, les livres?
De partout.
À la cave
Ouais, de partout. Les gens ont envie de transmettre quelque chose, je trouve ça tellement touchant, et puis j'aime ce moment où on est face à soi, où on lit, où on découvre quelque chose. Enfin, je pense qu'on fait partie des gens qui aiment les livres.
Et oui. Est-ce qu'il y a un livre auquel vous revenez tout le temps, qui serait peut-être votre livre préféré?
J'adore l'heptaméron des gourmets par l'objet. Édouard Nignon, qui est un cuisinier, qui avait un restaurant qui s'appelait La Rue, qui était aux 2 ou 3 places de la Madeleine. Ça correspond à la boutique d'une grande marque d'habits aujourd'hui. Je trouvais que sa littérature, qu'il employait pour décrire une recette, j'en suis incapable. Et je regarde ça avec une admiration sans fin. Il a fait ce livre pour son fils qui était mort à la guerre, qui est publié en 1919. Il y en a eu 120 exemplaires, j'ai la chance d'en avoir un. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, vous avez vu avec les ingrédients, c'est que quand il parle d'une recette de carpe, il explique que dans un village, il y a un étang et que les carpes sont comme ça et comme ça. Et je trouve que c'est ça la richesse de la cuisine.
C'est raconter une histoire.
C'est raconter une histoire. J'adore Prosper Montagnier parce que quand il a fait son grand livre de cuisine en 1900, il en a fait une suite en 1929. Ce livre est fou. Et dans les auteurs contemporains, on va pas oublier, on va avoir une pensée pour lui, Michel Grard, qui nous a quittés il y a quelques semaines.
Disparu le 19 août dernier.
Voilà, quelqu'un d'assez incroyable dans sa façon de penser. Et Michel Bras, parce que quand j'étais jeune cuisinier au Crillon, à l'époque, il y avait un magasin qui s'appelait Bain-Marie, le Bain-Marie, qui était rue Boissy-d'Anglas. Et l'après-midi, j'y rentrais, je regardais les livres, et j'ai acheté son premier livre, qui était son livre de territoire.
Et il fait partie des gens, comme Michel Guérard, comme d'autres, je ne veux pas tous les citer, mais qui ont apporté des choses incroyables à la cuisine. Et chez Michel Bras, il a fait quelque chose qui paraît très simple aujourd'hui, mais qui était, à mon sens, à l'époque, inconnu. C'est qu'au lieu de regarder le jardin, il a regardé autour du jardin. Et c'est une chose fondamentale dans la cuisine d'aujourd'hui. Même si le pourpier, on l'a toujours cuisiné en Provence, on faisait rarement ça dans la cuisine française et aujourd'hui mondiale. Il fait partie des gens, comme Michel Guérard, comme d'autres, et pardon pour ceux que je ne cite pas, ceux d'avant et ceux d'après, qui ont apporté des choses, et j'ai un respect énorme pour ces gens.
Quel serait le livre que vous recommanderiez pour tous les jours, pour une cuisine simple du quotidien?
Les vôtres, peut-être?
Non, ah oui, bah pourquoi
non, pas. C'est pas marrant. Non, non, non. À part les vôtres, le vôtre ou le nôtre, hein, on va pas se faire... Voilà, les Françoises Bernard.
Ouais.
Le premier livre que j'ai eu, L'art culinaire français, est pas mal quand même.
Oui,
L'art
génial.
Culinaire français, il est pas mal.
Alors moi j'ai une proposition à vous faire pour changer un peu du quotidien de Françoise Bernard. C'est un auteur britannique contemporain qui s'appelle Nigel Slater.
Mm-hmm.
Vous le connaissez?
Oui.
Alors il est auteur, journaliste culinaire pour The Observer depuis plus de 30 ans. On lui doit, selon moi, les meilleurs livres de recettes publiés en Grande-Bretagne dans le registre de la cuisine simple, locale, de saison, populaire, pas compliquée. Il a des points communs avec vous, lui aussi. Il est passionné par le jardin. Je crois qu'enfant, c'était vraiment un sujet de fascination pour vous, voir quelque chose qui aurait pu être l'objet d'un métier ou d'une carrière, si vous n'en aviez pas décidé autrement. Il a vécu une enfance un petit peu isolée, une enfance marquée comme la vôtre par le drame de la perte d'un parent. Sa mère, dans son cas, une perte qui a une grande influence sur sa manière de concevoir l'alimentation. Et la saveur de son enfance, il dit que le goût de son enfance en est trouvé marqué définitivement. Il l'a raconté, c'est assez bouleversant, dans un récit, Toast, qui n'a pas été traduit en français, qui est devenu une pièce de théâtre à succès en Angleterre, qui se joue sans cesse. Et son seul livre traduit en français, c'est celui-ci, je vous l'offre. C'est le livre d'un cuisinier aux éditions Hachette Cuisine. Je le trouve très beau, très riche,
bon
très pratique. Tout n'est pas
illustré.
C'est
votre éditeur, Jean-François Piège.
Ben oui, en plus. Et puis, je pense que ça va vous plaire, parce qu'il y a notamment, pour au moins une raison, c'est qu'il y a un magnifique chapitre consacré aux tourtes et aux tartes salées et sucrées, qui est un vrai talent qu'on peut reconnaître aux Britanniques, de savoir faire des pies et autres tartes. Et c'est un sujet, vous, qui vous tient à cœur aussi. Je crois que vous avez consacré un ouvrage.
Oui, oui.
Aux
mais
tartes.
C'est
pas le meilleur?
C'est pas le meilleur, parce que je ne l'ai pas abordé J'ai progressé depuis. J'adore la couverture en plus.
Merci Elvira Masson. Allez,
merci.
On passe à quelques questions pièges. On a dû vous la faire 117 fois, c'est un petit peu facile. Jean-François, des questions auxquelles vous répondez rapidement et sans langue de bois. Vous êtes prêt?
Oui.
La plus grosse bêtise que vous ayez faite en cuisine?
La première fois que j'ai cuisiné chez moi en rentrant à l'école hôtelière, j'ai voulu faire une quiche. J'ai mis la pâte directement sur la grille. Quand je l'ai mis à chauffer, elle est tombée au fond du four.
Ah, c'est une petite bêtise.
Pas mal, non?
Pas mal.
Deuxième question. Êtes-vous toujours à la recherche de la troisième étoile Michelin?
Oui.
Quatrième question. Avez-vous
C'était court, hein, vous m'avez pas relancé. Hein, j'attendais. Pardon.
Avez-vous de l'amertume à l'égard du guide Michelin?
Aucune. Moi, j'ai pas d'amertume. Et j'aime pas dans la cuisine quand on oppose.
Mm-hmm.
Donc, non. C'est eux qui décident. Le jour où ils décideront. Ou ils décideront peut-être jamais, d'ailleurs. En tous les cas, la cuisine, ça doit réunir. Ça doit pas opposer.
Très bien. Vous avez travaillé avec des chefs prestigieux auprès desquels vous avez beaucoup appris. Citons Michel Rochedy, chef du Chabichou à Courchevel. Citons, vous l'avez cité déjà, Bruno Cirino. À l'époque, vous avez travaillé avec lui quand il était chef du château Eza à Aize, sur la Côte d'Azur. Vous avez travaillé évidemment avec Christian Constant à l'hôtel Crillon dans les années 90 et vous avez travaillé pendant 12 ans avec un certain Alain Ducasse. Mmh. S'il ne fallait retenir qu'un seul mentor et éliminer les autres.
C'est horrible cette
gentil.
Question.
Vous n'êtes pas gentil. Hein. N'êtes pas gentil. Vous la connaissez la réponse?
Non.
Si.
Bruno Cirino?
Oui, c'est Bruno Cirino.
Ouais. Ouais. Mmh.
C'est lui qui m'a fait comprendre que la cuisine, c'était pas que de l'instinct. Et pourtant, il travaille qu'un instinct. Il a beaucoup de savoir. Et c'est lui qui m'a dit avec ses mots, et parfois avec un peu de brutalité, ce que ma carrière devait être. Mais après, j'ai un respect énorme pour Christian Constant, qui a été, et que j'ai retrouvé à la télé après, qui a été incroyable avec moi, avec Michel Rochedy aussi. Et puis, je suis pas resté 12 ans avec Alain Ducasse si... j'avais pas aimé travailler là-bas.
Jean-François Piège, on a envie de vous servir sur ce plateau un petit trou normand musical. Attention, c'est une surprise que vous allez déguster à l'aveugle. À vous de deviner l'interprète de ce poème écrit par Philippe Labro sur la 7e de Beethoven. On écoute et vous donnez votre verdict juste après.
A couru sur cette plage, elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Alors, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoires. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai? Le sable était blanc? Vraiment, c'est vrai? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons? C'est vrai? Ça a vraiment existé? Ça a vraiment existé? Vraiment?
Jean-François Piège, qui interprète ce poème de Philippe Labro sur la 7e de Beethoven?
Quelqu'un qui parle bien.
Mm-hmm.
Qui met ce qu'il y a dans son bide.
Et vous n'avez pas la réponse.
Et j'ai pas la réponse.
1970.
C'est Johnny Hallyday.
J'ai pas reconnu.
Johnny Hallyday, dont vous étiez très proche avec sa femme Laetitia. Comment vous l'avez rencontré?
Autour d'une table de mon restaurant. Il m'a dit waouh, on s'est régalé. Il est venu, voilà. Et puis la vie a fait les choses après.
Quel type de gourmet était-il selon vous?
Fin.
À votre table.
Fin. Fin. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, il avait tellement voyagé, il aimait tellement ça, c'est pour ça que Laetitia cuisine divinement bien, parce qu'en fait, c'était un mangeur averti, en fait. Comme il avait beaucoup voyagé, que chaque fois, on voulait tellement lui faire plaisir qu'il goûtait le meilleur, à force de goûter le meilleur, on devient exigeant.
Vous avez beaucoup cuisiné pour lui?
Un petit peu, ouais.
Ouais. Jean-François Piège, il est temps de vous lever pour rejoindre notre plaque de cuisson. Et une surprise dans l'assiette.
France Inter. On va déguster.
Notre invité Jean-François Piège est derrière la plaque de cuisson de l'émission avec une casserole, une assiette, quelques ingrédients, mais très peu. Quand je vous ai lancé ce défi d'un tour de main de chef, mais applicable à la maison par tout le monde, qu'est-ce que vous m'avez répondu Jean-François?
La première fois, sauce 4 quarts, je crois.
Ouais.
Et après, poisson cuit entre deux assiettes. On le met à chauffer. Tac. Je commence?
Bien sûr.
Allez. Quand j'étais plus jeune, ma maman cuisinait extrêmement bien, sauf que j'aimais pas trop le poisson, parce qu'elle le cuisait mal en fait. Je suis pas d'une région où le poisson a une place fondamentale, et traditionnellement elle avait pas appris à le cuire. Cuire du poisson à la maison, c'est quand même pas la chose la plus facile, parce qu'on sait pas quand c'est cuit, c'est la principale question. Une viande trop cuite, bon, on met de la moutarde, on la mange froide, on la coupe fine, sauf que le poisson, c'est compliqué à cuire. Moi, jeune cuisinier,
la peur qu'on avait, c'était toujours de trop cuire. Ben, il y a des méthodes pour pas trop cuire, même à la maison, si vous n'êtes pas très équipé. Une casserole avec de l'eau bouillante, une assiette qui est plus grande que la casserole.
Il vaut mieux, pour éviter qu'elle coule. Alors là, on a trouvé chez notre poissonnier, Jean-François, deux filets de dorade sébaste. C'est un poisson dont les stocks ne sont pas menacés, et c'est un poisson plutôt bon marché. Ça vous va ?
Très bien.
Ça marche avec tous les filets de poisson ?
Ça marche avec tous les filets de poisson, et principalement les poissons qu'aiment les enfants. J'ai un précepte dans la cuisine, les viandes, on sale avant la cuisson, le sel va rendre l'humidité, quand ça, la réaction de Maillard, ça va faire une croûte, ça sera meilleur. Quand c'est sur le poisson, ça fait coller à la poêle, donc on sale pas.
Donc une noix de beurre qui fond légèrement, voilà. Donc vous lustrez en quelque sorte le fond de l'assiette ?
Donc j'ai pris cette assiette, et j'ai mis les deux filets de poisson, j'ai l'eau qui bout dessous, et j'ai remis une assiette dessus, donc cuit entre deux assiettes.
Un effet cloche.
Un effet cloche. Et c'est ça, tout à l'heure, dont je parlais, la cuisson, le couple temps-température. C'est quoi l'idée ? C'est que l'idée, l'eau, elle bout là. Si je trempe le poisson dans l'eau, c'est un poisson à l'eau que personne ne va aimer. L'eau, là, elle va faire de la vapeur, elle va taper contre l'assiette. L'assiette qui est en porcelaine va diffuser le plus régulièrement possible la cuisson du poisson.
Conduction de la chaleur.
Conduction de la chaleur. Ça va monter. Et celle de dessus garde la chaleur qui est induite naturellement, puis il va y avoir de l'humidité. Donc ça va créer une atmosphère, ça va faire une cuisson, vous allez voir, assez incroyable.
Vous évaluez à combien à peu près la température de l'assiette pour cette cuisson ?
Là, c'est à 70 degrés, 75 degrés.
Donc on peut parler, Jean-François Piège, d'une cuisson douce.
Absolument. Il y a quelque chose que moi j'adore. Un vrai luxe, c'est manger dans une assiette chaude. Et là, si on est deux à la maison, j'ai mis deux filets de poisson, j'ai mis deux assiettes, on va avoir tous les deux une assiette
chaude. Génial.
Ah, génial. C'est génial. Pendant que ça se passe, ça ne peut pas brûler. Moi, je peux discuter, on peut faire des choses, et ça se fait tout seul. Alors, on va les retourner, j'ai pas de spatule, mais on va prendre un couteau, c'est pas grave. Hop. Comme il est cru de l'autre côté, il va pas se casser.
Joli. Encore plus doux qu'une cuisson à la vapeur, en fait.
Alors, moi, j'aime pas trop la cuisson à la vapeur sur le poisson, parce que je trouve que ça agresse le poisson. Ça le sèche. Là, on va garder le moelleux. Le poisson que j'adore cuire là-dessus, c'est deux filets de merlan. Donc si vous achetez chez votre poissonnier, faites enlever la peau. Sur le merlan, c'est une peau qui est beaucoup plus fine. On peut considérer qu'il faut la laisser. Mais ça peut marcher avec le maquereau, avec tous les poissons qui ont cette délicatesse nécessaire.
Vous mettez de côté votre casserole d'eau bouillante ou continuez à cuire vos deux filets de dorade sébaste et vous nous avez préparé une petite recette très simple dont vous avez le secret. C'est une recette de sauce pour accompagner ce poisson.
Voilà, la sauce 4 quarts, c'est ce que Jacques Maximin vulgarisait de l'une de ses recettes, mais c'est ce qu'on apprend aux cuisiniers. La sauce 4 quarts, c'est ce qu'on appelle le beurre monté. C'est la base en fait de réflexion de toutes les sauces. C'est une émulsion. L'émulsion, c'est une fine multitude de matières grasses en suspension dans un corps liquide. C'est la base de la liaison, c'est la base de la sauce. Alors, la sauce 4 quarts, elle est définie par jus de citron, eau, et là, huile d'olive et beurre.
Toutes à part égale, ça s'appelle 4 quarts. Donc, la moitié de liquide, la moitié de matière grasse, un quart de jus de citron, un quart d'un autre liquide.
Oui.
Ça peut être de l'eau, ça peut être aussi
oui,
éventuellement
du jus de tomate. Moi, quand j'ai écrit la recette, j'ai mis de l'eau. Et puis, comme la cuisine, c'est quelque chose qui progresse, on peut mettre autre chose. Je le fais maintenant avec des jus de légumes parce que je trouve ça délicieux.
Et ensuite, côté matière grasse, un quart de beurre et un quart d'huile d'olive.
Voilà. Et ça se fait tout seul. On met tout dans la casserole, on fait bouillir.
Superbe.
Voilà. Petite technique, vous savez quand un poisson est cuit ou pas ?
Quand les feuillets en fait du poisson commencent à se détacher.
Et comment on peut le vérifier ?
Et ben avec la pointe d'un couteau en soulevant légèrement.
Moi, je le fais avec un cure-dent. Je regardais s'il y en avait un. S'il rentre et à un moment donné, on sent un petit truc qui se passe, c'est là où il faut l'arrêter.
Ah, nickel.
Bah, nickel. Vous ferez attention, parce que je pense qu'il y a eu une ou deux arêtes que j'ai senties.
Qui va tomber sur l'arête ? Allez, gagnez, j'espère. Bravo.
Voilà.
Bravo.
Superbe.
Voilà. On passe au service. Et Vanessa nous a rejoint de notre public jusqu'au micro dont on va déguster pour jouer les cobayes consentants de ce très beau filet de Sébaste sauce 4 quarts signé Jean-François Piège. À votre fourchette Vanessa et un petit commentaire de dégustation s'il vous plaît.
Franchement, à part que c'est très bon, très simple, très fin, très fin.
Qu'est-ce que vous pensez de la cuisson ?
C'est parfait, hein. Ça fond vraiment dans la bouche.
Ouais vache, c'est fondant. Hein.
C'est très fondant.
Exactement, c'est même presque glissant.
Ça sent l'huile d'olive. Hein.
Un quart.
Mais c'est très bon.
C'est juste parfait.
dans ces périodes d'inflation où tout le monde se dit c'est compliqué de remplir le panier, d'acheter des choses simples et de les cuisiner simplement, en termes d'énergie, ça prend pas beaucoup d'énergie et on peut se faire plaisir.
Elvira, Jérôme ?
Ah, je trouve ça délicieux et je trouve que la sauce est délicate, limpide, très droite dans son goût, puis juste liée comme il faut. Quoi. Moi, je vais reproduire cette méthode à la maison, je trouve ça génial.
Un grand chef, il transcende quelque chose de simple. On oublie souvent de faire les choses simples, parce qu'un grand chef, ça les transcende. Et les grands chefs oublient souvent de faire les choses simples.
En tout cas, Vanessa finit son assiette. Donc vous aimez ?
Ah oui, c'est formidable. Et je pense qu'effectivement, on peut épater vraiment nos amis en faisant cette recette, parce que c'est... Mais même les enfants, en fait, parce que c'est pas...
Mais c'est une recette qui est faite pour les enfants.
C'est très doux, en fait.
Bon. Vous allez la reproduire à la maison, cette technique,
oui.
Vanessa ?
Ah oui.
Merci d'avoir mis votre grain de sel dans cette émission. C'est l'heure du temps d'échange avec notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
On a un tout petit restaurant, on fait 20 couverts, mais on a une très grande carte des vins où on met en avant tous les territoires de France. 5500 références. Qu'est-ce qu'on boit ?
Jean-François Piège, vous êtes très intéressé par le vin, dans vos restaurants évidemment, mais aussi dans votre vie privée. C'est évidemment le thème sur lequel Jérôme Gagnez souhaiterait vous interroger.
Alors pas seulement, mais oui, évidemment sur le thème du vin. J'ai lu une anecdote concernant votre rapport au vin. Vous étiez jeune cuisinier, vous êtes allé déjeuner chez Sandrins, qui était le très grand maître. Alain Sandrins, au Lucas Carton, à Place de la Madeleine à Paris. Il avait 3 étoiles, ça a été le très grand maître de la Cormet vin. C'est le chef qui a fait rentrer le vin dans la cuisine. Et vous allez déjeuner, vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous ne prenez pas de vin, et il vous offre, sur le deuxième service du Canard Apicius, un verre de Mory. Et vous découvrez l'interaction entre le vin et le plat, et vous découvrez tout ce que ça peut avoir de magique. Je suis très content de vous faire peut-être découvrir un domaine que vous ne connaissez pas, c'est le domaine Poudroux. C'est un domaine historique de Mory. Ça vient d'être repris par 2 jeunes vignerons. Robert et Cathy Poudroux ont pris leur retraite. Ils font pour moi un des meilleurs Mory de l'appellation. Ils ne sont pas très connus, mais c'est un très très joli vin. Donc je suis heureux de vous offrir cette bouteille. Vous pourrez goûter et peut-être découvrir un nouveau domaine. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Les Mory sont absolument remarquables. Alors j'ai 2 questions. Une première question, c'est sur la cuisine. Je suis un très très grand admirateur de ce livre dont Elvira a parlé tout à l'heure, la cuisine française, le grand livre de la cuisine française. Je trouve
c'est le titre exact chez Hachette Cuisine.
C'est le grand livre de la cuisine française. Ce livre est extraordinaire. Je me mets à la table de cuisine et je lis ce livre et je rêve. Il y a une chose que je comprends pas très bien. Il y a quasiment aucun grand chef qui s'attaque sérieusement dans un grand restaurant à la grande cuisine traditionnelle française. L'un des derniers, c'était Fréchon, est parti. Il y a éventuellement encore un peu Bocuse. Il y a une place à prendre. Vous avez là un livre qui est un véritable programme. Vous réussissez de façon absolument magistrale à la Poule au Pot. C'est un de mes restaurants préférés.
Oui, c'est un bistrot. C'est pas la même chose.
Non, mais c'est un bistrot. Mais moi, je pense que la grande cuisine traditionnelle, elle mérite aussi un grand restaurant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est un de mes projets futurs. J'ai 2 projets que j'aimerais assouvir là. C'est faire... Vous connaissez la librairie Settel, qui est la librairie de Karl Lagerfeld. J'aimerais mettre ces livres que j'ai qui sont là. J'aimerais bien en faire une librairie comme ça, et où, dans laquelle on puisse venir manger et toucher ces livres-là, parce que c'est important, en fait. Ça, c'est un de mes projets. Et l'autre, c'est de faire un restaurant qui soit un restaurant grand livre de cuisine bourgeoise et populaire, nappe blanche, où on fasse cette cuisine-là.
Et vous pensez pas que c'est ça?
Ah, mais c'est 2 rêves que j'ai. Il faut que je trouve le...
Oui, mais les 3 étoiles, elles sont pas atteignables avec ça, avec cette très grande cuisine.
Je sais pas. En tous les cas, j'ai tellement de livres. J'ai trouvé une recette des Ardennes qui s'appelle casse-casse-cunu. C'est un ragoût de pommes de terre, en fait, cunu, parce qu'il y a pas de viande. C'est un ragoût de pommes de terre populaire. Et que toutes ces recettes disparaissent, ça me hante. Je le dis avec la plus grande sincérité, ça me hante. Donc oui, un jour, je ferai quelque chose comme ça.
Alors, le deuxième sujet, c'est le vin, évidemment. Vous faites partie des très rares chefs qui vous intéressaient réellement au vin. La plupart... disons qu'ils s'intéressent
aux toilettes.
Disons que la plupart sont assez ignorants, voire totalement ignorants en matière de vin. Et vous êtes un des rares qui...
Je m'intéresse, mais je suis ignorant aussi, parce que c'est une telle diversité que
je passe... Oui, mais manifestement, vous vous intéressez. Alors, bon, dans vos réponses à divers magazines, notamment Le Figaro, par exemple, vous citez souvent des vins très chers, quand même. Il y avait le Clos Vougeot de Guiberto, Jamais 99. Il y avait, dans Sommelier particulier, vous citez Jamais, à nouveau
Jamais, je suis de la Vallée du Rhône. Moi, mes parents achetaient du Jamais...
Alors là, on parle d'un producteur, d'un vigneron de Côte-Rôtie.
Oui, de Côte-Rôtie,
on allait l'acheter le dimanche.
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres que jamais qui sont très très bons aussi.
Mais vous savez, un truc dans la vie, la fidélité, c'est important. Mais vous êtes en train de demander à Jean-François Pêche s'il n'est pas un buveur d'étiquette.
Je trouve qu'il y a parfois un petit côté un peu comme ça. Je vous ai mis dans le verre un vin que je voulais vous faire goûter à l'aveugle. Mm-hmm. C'est pas du tout un piège, mais c'est en écho à un vin que vous aimez beaucoup.
Alors, il y a un côté très mûr. J'ai vu la bouteille, donc l'idée où ça m'a mené, c'est pas celle-là. La forme de la bouteille n'est pas bonne. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce vin, c'est qu'à la fin, il y a une salinité, une minéralité qui nous donne un goût d'envie d'y revenir.
Et vous pensiez à quoi initialement ?
Tout de suite, quand je l'ai senti comme ça, il y avait une surmaturité avec un petit peu de sucre qui pouvait nous amener dans l'est de la France. Et puis, c'est comme ça, maintenant, c'est plutôt dans le Val-de-Loire.
Il y a un petit côté sésame grillé Autolise aussi.
Ouais, hein. Ouais. Alors, très léger, il y a une petite réduction. Voilà. C'est un vin qui est de 2016. Mm-hmm. C'est un vin qui est sec, mais il y a effectivement un gras, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce vin. C'est un Touraine-Amboise, cuvée Le Buisson,
ça, alors.
2016, un pur chenin du domaine Bonigal-Baudet. Je voulais vous faire goûter ce vin, parce que vous parlez de Romain Guibertot, qui est un très très bon vigneron de Saumur. Et voilà pour moi une des grandes relèves de la vallée de la Loire. Je ne sais pas si Baptiste, votre sommelier, connaît ce domaine, et si vous connaissez ce domaine. Bonigal-Baudet, je vais vous en donner une bouteille, comme ça vous pourrez la rapporter à Baptiste pour la goûter.
Vous êtes gâté, Jean-François, je vais revenir, je reviens la semaine prochaine.
C'est un 2016, alors maintenant, et ça fait 6 ou 7 ans qu'ils font du vin, mais 2016 c'est un des premiers millésimes, ça a été un de mes grands coups de cœur de l'année à cette époque-là. Je constate que le vin vieillit admirablement bien. Et voilà, c'était en écho à votre goût aussi pour le chenin.
Le budget pour ce chenin ?
On doit être aujourd'hui aux alentours de 25 euros au domaine.
Ouais. Je pense que le Val-de-Loire et sur les blancs, c'est l'avenir avec le réchauffement climatique. Le tuffeau va nous aider à conserver une fraîcheur dans les vins. Et...
Les schistes aussi, non, mais on est entièrement d'accord. Chenin a un très grand avenir aujourd'hui dans le monde des grands
vins. Je reviens juste sur le buveur d'étiquette. J'ai pas honte de le dire, mais en fait, je suis fidèle parce que quand Romain s'est lancé, j'étais dans ses premiers clients. Alors, jamais c'était le papa. Donc, c'est comme ça que j'ai suivi. Et il y a plein d'autres vignerons comme ça.
Ah non, mais je ne vous reproche pas la fidélité.
Non, mais
c'est
important, la fidélité, même
quand on devient... Ah oui, ça, je suis d'accord. Oui, ça, je suis entièrement d'accord. La fidélité, c'est une vertu cardinale, même. Oui, on est d'accord.
Merci beaucoup, Jérôme Gagnez.
Et merci, parce que ça, c'est extrêmement bon. Parce qu'on ne l'a pas dit, en fait. Et c'est ça, le vin.
Ça me fait très plaisir que ça vous fasse plaisir et que ça vous aime.
On a envie de finir le verre. On termine cette masterclass de Jean-François Piège avec une question. Vous étiez au micro, Vanessa.
Vous avez parlé de vos projets, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourriez aller sur la street food?
Ah, intéressant.
Oui, je l'ai fait, je me suis planté. Pardon, j'ai ouvert à côté de Clover, j'avais ouvert un Clover Shop où je voulais faire des sandwichs et par ego, j'ai voulu faire un très bon sandwich. Sauf que quand on prend un très bon pain, on met un très bon beurre, un très bon sandwich, ça va dans une gamme de prix que la street food n'accepte pas. Et j'ai pas su faire, donc on a fermé. J'ai fait mon atelier de pâtes à côté, ça va très bien, mais non, je me suis planté.
Merci beaucoup, Jean-François.
C'est trop
Piège.
Cool votre émission.
Merci beaucoup pour votre générosité de paroles et de gestes, pour nous avoir apporté notamment ces belles vanilles qui nous ont ensorcelé les narines. Pour se frotter à votre cuisine, Jean-François Piège et votre univers, il y a bien sûr le Grand Restaurant pour une expérience gastronomique. Il y a aussi des adresses beaucoup plus décontractées, des bistrots à l'Épidore, la Poule au Pot, on en parlait. Il y a vos deux derniers livres, alors un qu'on n'a pas cité mais qui prouve une fois de plus que vous êtes très très positionné sur la cuisine du quotidien. C'est ce livre, toujours chez Hachette Cuisine. Décidément, effectivement, vous êtes un homme fidèle.
Ouais.
Zéro gaspille, près de 50 recettes économiques et gourmandes avec de très très belles stratégies pour recycler du parasite.
Je peux faire juste un...
Oui,
il faut avoir beaucoup d'humilité quand on fait la cuisine, parce que le prochain livre qui est sur la cuisine des territoires, je me suis aperçu que dans des recettes traditionnelles, ce que j'ai fait avec le parasite, autrement que de ma perdue, existait déjà. Et je ne le savais pas quand j'ai fait ce livre-là.
Et ben voilà. Bon, humilité chez Jean-François Piège. Et ce livre également, on l'a compris, hein, qui est dans toutes nos cuisines désormais. Mon répertoire de recettes. Toujours chez Hachette Cuisine avec quand même 1500 recettes. C'est vraiment un petit bouquin tout à fait éblouissant. La semaine prochaine, l'Afrique cuisine en France. On vous raconte le formidable élan des cuisines africaines à Paris et en région. Encore merci beaucoup Jean-François.
Merci
et
à la
prochaine. Merci Jérôme, merci Elvira, à la prochaine.
Merci
bientôt,
et bon,
merci
dimanche, à tous,
bon
tout.
Dimanche à tous.
Et merci à notre public de vous être prêté au jeu. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.